Bonjour, bienvenue à chacun et chacune, content de pouvoir passer ce moment avec vous. Je vais juste prier et puis on ouvrira la parole de Dieu ensemble. Notre Père, merci pour tout ce qu'on a pu t'exprimer ce matin. Merci parce que tu es ce Dieu vivant, ce Dieu vrai, Seigneur, que nous pouvons adorer parce que tu nous as sauvés, notre Père. Et je te prie vraiment que ce matin tu nous aides à ouvrir les yeux de nos cœurs, que nous puissions être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut nous dire, Seigneur, pour que ton royaume grandisse dans nos vies. Seigneur, que nous soyons ces disciples, ces enfants que tu veux que nous soyons. Nous te prions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Juste avant de commencer, est-ce que vous croyez que les paroles que vous chantez, ce sont des paroles qui vous engagent? Avec les masques, j'entends pas bien. Ok, d'accord. Parce que là, vous êtes engagés. Attention. Ça rigole pas ce qui est dit là dans les paroles. Et on va justement parler de ça, de soumission, d'obéissance, de plaisir, de joie. Pour ça, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, à chapitre 8. Pour ceux qui n'ont pas les Bibles, on se sera projeté à l'écran. Avant ça, j'aimerais vous montrer la photo d'une personne. Savez-vous qui est cette personne? Qui? Qui connaît? C'est pas grave. Un sportif qui fait du football américain. Qui a dit? Jason, plus quarterback, ouais. Son nom c'est Tom Brady. Ok. Ça vous parle pas du tout? Moi non plus. Ça me parlait pas. Vous savez que cet homme-là, il a gagné 7 Super Bowls. 7 Super Bowl. Et il en a gagné 6 avec une équipe de cadors, vraiment des top du top. Et il s'est dit, je vais aller dans une nouvelle équipe, les Buccaneers, voilà. Ça ne vous intéresse pas, mais ce n'est pas grave, je le dis quand même. Et c'est une équipe qu'on peut classer de type moyenne. C'est un peu genre, nous, on pourrait dire Marseille, par exemple. Voilà, milieu de tableau. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de Marseillais dans la salle, je ne vais pas me faire taper. Et il est arrivé dans cette équipe-là, qui était donc moyenne. Et quand il est arrivé dans cette équipe, il y a une personne qui est sortie de sa retraite, une autre qui a dit « moi je veux jouer avec lui, je viens ». Et grâce à ça, grâce à cette personne-là, grâce à son désir qu'il avait de vouloir gagner un Super Bowl avec une équipe moyenne, il y a une grande équipe qui s'est créée autour de lui. Et grâce à ça, ils ont pu gagner le Super Bowl cette année. Pourquoi je vous dis tout ça? Je dis qu'il y a un rapport avec la choucroute. Je vous propose ce matin, on va faire un petit aller-retour. 200 km, on va faire Jérusalem-Samarie, aller-retour. Et entre-temps, on va réfléchir un petit peu à ce qui se passe quand on décide de vivre ses rêves, justement, comme on a entendu ce matin, d'avoir un désir dans son cœur et de le mettre en pratique et voir quels fruits ça porte. Donc ce qu'on va faire, je ne vais pas lire tout le texte parce que c'est long, on va lire un petit bout, s'arrêter, réfléchir ensemble, puis repartir petit à petit, ça le voyage sera moins long pour tout le monde. Donc on va lire les chapitres, les versets 1 à 4 qui sont affichés. Et donc ça commence ainsi. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem. Et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église. Il pénétrait dans les maisons, arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Donc on est à la suite de la mort d'Étienne, du meurtre exactement. Et donc Luc, qui écrit le livre des Actes, nous introduit un nouveau personnage qui s'appelle Saul et qui est quelqu'un d'assez terrifiant. La Bible de la Colombe traduit « Il ravageait l'église, il arrachait les femmes et les hommes et les femmes et les jetait en prison. Il rentrait chez eux de force. » Bref, ce n'est pas quelqu'un avec qui on a envie d'être confiné pendant 2 mois. Mais ce n'est pas le point central de notre propos. On est juste en train de voir un nouveau personnage qui arrive dans notre histoire du livre des Actes. Et donc, le texte nous dit que voilà, après la mort d'Étienne, il se passe quelque chose et que les chrétiens sont persécutés. Le Seigneur avait dit aux chrétiens, vous allez être mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre. Et pendant un temps donné que Luc ne nous dit pas, ils sont restés à Jérusalem. Et on peut se poser la question, pourquoi? Peut-être parce qu'ils étaient bien entre eux, finalement, que c'était facile. Jérusalem, on connaît les lieux. Quand on se déplace, c'est facile. Les gens, on les connaît. Peut-être qu'ils étaient tentés de rester dans leur zone de confort. Peut-être qu'ils attendaient un moment propice, peut-être un moment où le Seigneur donnerait une révélation en disant « Go, c'est maintenant, il faut aller en Judée, en Samarie, c'est le moment. » Une occasion favorable, on ne sait pas. Mais on connaît tous ce sentiment d'être bien là où on est, d'être dans une zone tranquille, où on n'a pas peur, on est en sécurité, on se sent bien. On n'a pas envie de bouger, oh, pff, fatigant de bouger, de faire des efforts. Mais pourtant, le Seigneur a un plan pour chacun. Le Seigneur a un plan pour son Église et le Seigneur, au moment voulu, fait bouger les choses. Et cette mission, il la rappelle. Juste pour comprendre bien notre texte de ce matin, donc le texte dit, les apôtres, juifs, d'origine juive, restent à Jérusalem. Pourquoi ? Parce que sans doute, ceux qui sont persécutés, ce n'est pas les chrétiens d'origine juive, c'est les chrétiens d'origine grecque. Donc on appelle les hellénistes. Donc peut-être dans le message, je vais parler d'hellénistes. Donc sachez que c'est les juifs d'origine grecque qui sont venus à Jérusalem et qui se sont convertis à la Pentecôte. Quand Pierre et les apôtres parlent, c'est les hellénistes qui se convertissent en masse. Et ça va être important dans la suite de l'histoire. Et je pense que c'est les hellénistes en particulier qui partent de Jérusalem, qui quittent pour se disperser quelque part dans la Judée. Et on voit que l'Église ne se contente pas de dire ben, « Tous ceux qui ont quitté Jérusalem se retrouvent en dehors de Jérusalem, reforment la même Église au même moment, disent « Ben voilà, finalement, on va juste être des chrétiens, mais à côté de Jérusalem. Nous, on sera à l'annexe, on sera à Avignon, par exemple. » Non, non, non. Ils se dispersent, ils s'éclatent partout. Ils ne veulent pas rester ensemble. Mais je pense qu'ils ont dû se rappeler que le Seigneur avait dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie. » Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour l'instant, on ne va pas aller aux extrémités de la terre, on va s'arrêter à la Judée et la Samarie. Les chrétiens, donc j'ai dit, ils sont persécutés quand ils quittent Jérusalem. Ils ne sont pas juste en train de se dire, bon, bah, finalement, on part, on y va. Ça peut paraître injuste d'être persécuté à cause de sa foi. Et des fois, on a l'impression que le Seigneur nous fait passer par des choses qui sont injustes. On est des bons chrétiens, on va à l'église tous les dimanches, on lit notre Bible, on prie, on essaye de faire un maximum de bonnes choses, et pourtant, il nous arrive des tuiles, il nous arrive des pépins dans la vie. Et souvent, bien souvent, quand les choses semblent changer de direction, que ça, on se rebelle contre ça, on dit « Ah, c'est pas juste, Seigneur, pourquoi moi ?» C'est pas ce que les chrétiens font. Ils se disent « Ok, Seigneur, c'est une occasion pour nous de vivre ce pourquoi tu nous appelles. » Connaître Dieu et le faire connaître. C'est ça notre mission en tant que chrétien. Est-ce que nous sommes convaincus ce matin que Dieu veut que nous soyons ses témoins ? Est-ce que la détresse spirituelle des gens qui nous entourent, le fait qu'ils ne connaissent pas leur Créateur et leur Sauveur en Jésus, ça nous pèse ? Ou est-ce qu'on n'en a rien à faire ? Est-ce qu'on attend d'être dans la situation la plus optimale pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir annoncer l'évangile? Ou est-ce qu'on se dit, peu importe la situation, ma vie c'est un témoignage pour Dieu. Bonne, mauvaise situation, je témoigne, quoi qu'il arrive. Ou est-ce que je me replie devant l'inconnu? Ou est-ce que je saisis l'inconnu comme une chance de pouvoir grandir en Christ et de pouvoir apprendre de Dieu et apprendre sur Dieu? Et donc Luc va faire un zoom sur une personne qu'on ne connaît pas. Enfin, on en a entendu parler une fois en chapitre 6. Une personne qui s'appelle Philippe. Et je vous invite qu'on lise les chapitres, le verset de verset 5 jusqu'au verset 13. Je vais lire verset 4 parce que je ne l'ai pas lu tout à l'heure. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait, en effet, les esprits impurs sortaient et beaucoup de démoniaques en poussaient de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutait attentivement et disait « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur avait annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et aussi, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Donc on va prendre peut-être deux petites secondes pour parler un peu de Philippe. Ok, ça marche. Donc on a très peu d'informations sur qui est Philippe. On sait que c'est un diacre, qui est en tout cas un responsable, qui a été nommé en même temps qu'Étienne. Donc il va exercer est-ce que tu peux mettre la carte, s'il te plaît ? Merci. Donc, voilà, je sais que vous n'arrivez pas à lire, mais je vais vous montrer. Jérusalem, c'est là. Samarie, c'est ici. Donc, quand il quitte Jérusalem, le texte nous dit, il tape 100 km jusqu'à Samarie, où il va prêcher l'évangile, les gens vont se convertir, tout ça. Ensuite, il va partir jusqu'à Césarée Maritime, c'est-à-dire ici, où il va, en tout cas, Luc nous en parle au chapitre 21, il va être là, il aura 4 filles qui sont des prophétesses. Voilà les seules infos qu'on a sur lui, qui ne sont pas très intéressantes, mais qu'on a quand même. Mais le plus important, c'est qu'on a ce qu'il va faire. Une petite portion, parce qu'on ne va pas voir tous les villages qu'il va traverser pour aller jusqu'à Césarée, mais on voit ce que fait Philippe. Et donc ce qu'il fait, c'est simple, c'est que lui, il est juif d'origine grecque, donc c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'a priori sur les Samaritains. Entre juifs et Samaritains, c'est la guerre. On ne se fréquente pas. Si vous lisez les évangiles, quand Jésus va dans une ville de Samaritains, les disciples sont là, il ne faut pas parler avec eux. Quand ils voient que Jésus parle avec une femme samaritaine, il ne faut pas parler avec elle, ça ne va pas. Bref. Et donc Philippe, lui, il y va. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il parle de Jésus. Il annonce le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, aussi simple que vous et moi, il dit qui est Jésus ? Pleinement homme, pleinement Dieu, descendu sur terre pour sauver l'humanité du péché. Et un jour, Christ va revenir et là, le monde tel qu'on connaît va disparaître. Ceux qui ne sont pas à Christ iront dans un lieu qu'on appelle l'enfer. Donc ils seront privés pour l'éternité de la présence de Dieu. Et ceux qui ont accepté et reconnu Jésus comme leur sauveur et Seigneur passeront l'éternité dans la présence de Dieu. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et quand il parle, il y a des miracles qui attestent ce qu'ils font. Les miracles dans la Bible, ce n'est pas des miracles genre pour faire du bien. Pas comme les miracles que va faire Simon le magicien. Lui, il fait des miracles pour épater un peu la galerie, pour qu'il y ait des paillettes, que ça claque, que ce soit joli. Les miracles que Dieu donne, c'est des miracles qui attestent la véracité des faits. C'est-à-dire que Christ est vraiment venu. Et donc la foule est pleine de joie, elle voit des démoniaques être libérés, elle voit des boiteux qui sont guéris, et la foule est remplie de joie, et elle dit « Waouh, c'est incroyable ce Dieu-là !» Et pourtant, eux, ils sont habitués à voir des choses miraculeuses. Parce que justement, Luc nous dit, dans cette ville, il y a quelqu'un qui s'appelle Simon, qui est magicien, et c'est pas un magicien prestidigitateur. C'est pas... Je vous montre, il y a la photo qui arrive. Ah ouais, merci, excuse-moi. C'est pas non plus un magicien Hollywood. C'est pas un gentil sorcier, tout ça, Harry Potter, Gandalf. C'est pas ça. Un magicien, la magie n'a jamais rien de bon. On peut vous dire magie blanche, magie ceci, cela. La magie, c'est occulte. La magie, c'est le diable. Ça n'a rien de bon. Et donc, on voit cet homme qui se présente lui-même comme quelqu'un d'important. C'est lui qui le dit. Le mec a un melon comme ça, il passe plus les portes, il dit « Ouais, moi, je suis là, tac, c'est un problème, je fais de la magie, qu'est-ce qu'il y a ?» Et donc, quand Philippe arrive, les gens sont interloqués. Il dit « Mais lui, il nous présente quelque chose qui est différent de ce que fait Simon. C'est pas centré sur lui, c'est centré sur Jésus. » Et donc, le texte nous dit que, suite au message de Philippe, toute la ville, vous rendez, imaginez, 30 000 personnes à Carpentras. Bernard, il va aller un jour place de l'horloge, il va dire « Ouais, prêcher Jésus, tout le monde va se convertir, 30 000 personnes qui arrivent, chut, ça fait beaucoup, il faudra changer d'église. » Et là, c'est ça ce qui se passe. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte qui le dit. Il y a toute la ville de Samarie, on ne sait pas comment ils sont, c'est pas sûrement 30 000 personnes, c'est peut-être une petite bourgade. Mais en tout cas, tous se convertissent. Incroyable. Et on nous dit que Simon, il croit en Jésus et il se fait baptiser. Donc là, on se dit, yes, même quelqu'un qui pratique l'occultisme peut se convertir, se tourner à Christ. Mais Luc ainsi, donne une petite indication, qui, je pense, gardez-la à l'esprit, on va en reparler tout à l'heure. Il suit Philippe. Il suit Philippe et il est vraiment émerveillé par tous les miracles qu'il fait et les signes qui s'accomplissent. Donc Dieu utilise Philippe, une personne lambda comme vous et moi, pour annoncer son royaume. Dieu n'est pas allé chercher, n'a pas appelé Pierre, qui est un cador, hein, quelqu'un qui est un apôtre. Non, les apôtres sont restés à Jérusalem pour s'occuper des chrétiens. Il avait son rôle à faire là-bas. Et Philippe, il a son rôle à jouer, d'annoncer l'évangile. Alors on ne sait pas si Philippe, c'est un grand orateur, on ne sait pas si... On sait juste qu'il annonce simplement son message et que les gens se tournent vers lui. Et je pourrais vous dire, oui, il faut annoncer simplement Christ et les gens vont se convertir. Je pense que vous avez tous fait l'expérience que ça ne marche pas à tous les coups. Mais ce n'est pas grave, il faut le faire avec persévérance, continuer. Être ses modèles, être ceux qui sont certains que c'est par ce nom-là de Jésus, par ce message-là de la mort du Fils de Dieu sur la croix qui nous rachète de nos péchés, que les gens seront sauvés. Et Philippe, il croit ça de tout son cœur. Et quand ça occupe vos pensées, quand ça occupe votre être, vous n'avez qu'une envie, c'est de le partager autour de vous. Tout ce qu'il veut, c'est que Christ soit glorifié en travers de lui. Je vous invite à qu'on continue un petit peu notre texte de ce matin. Et donc, verset 14, on reprend. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur eux, sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean posèrent les mains sur eux, et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que le Saint-Esprit était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi un peu de ce pouvoir, afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur soit pardonnée, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit. On va s'arrêter là, on gardera le verset 25 pour la fin. Et donc, à l'époque, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de Zoom, il n'y a pas de Skype. Donc, on ne sait pas comment, mais la rumeur arrive jusqu'à Jérusalem, où les apôtres entendent « Ah, il y a des Samaritains qui se convertissent !»« Oh, comment ça, des Samaritains se convertissent ?» On va aller voir quand même ce que c'est que cette histoire. Donc, ils descendent, et ils remarquent, alors on ne sait pas comment, on ne sait pas à quoi, ils avaient peut-être une vision que nous, on n'a pas, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il y a un problème. Donc, que font les apôtres? Ils prient, ils leur imposent les mains, et le Saint-Esprit descend sur eux. On va s'arrêter un peu là-dessus, ça peut sembler un peu flou. Comment ça se passe quand vous vous convertissez? Quel est le processus normal? Question ouverte. Ok, d'accord, pas de réponse. Donc vous vous convertissez, comment? Vous vous repentez de vos mauvaises actions, vous reconnaissez que Christ est sauveur et seigneur de votre vie, et le Saint-Esprit vient en vous. Vous ne le voyez pas, les autres autour de vous ne le voyez pas non plus, mais c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, être de nouveau, la conversion, comme les chrétiens l'appellent. Et ensuite, vous vous faites baptiser, parce que vous voulez proclamer publiquement que Christ est votre sauveur et Seigneur, et vous vous faites baptiser, et vous viendrez là dans le baptistère, et Bernard vous plonge dans l'eau, moi je serai là aussi, et on sera dans la joie de voir que vous déclarez publiquement qui est Christ pour vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dans ce cas-là, ça ne se passe pas exactement pareil. Pourquoi ? Le livre des Actes, c'est, on l'a dit, une période de transition entre la première venue de Jésus, qui vient sur terre, qui meurt pour nos péchés, et la deuxième venue de Jésus, qui va revenir sur terre, juger tout le monde. Et nous, on est aussi entre ces moments-là. Mais entre ces deux venues, il y a un temps un peu court où le peuple de Dieu est en train d'être créé. Le peuple de Dieu étendu, on pourrait dire. Et donc, le peuple de Dieu étendu, oui, voilà, excusez-moi, je me suis perdu. Et donc, à ce moment-là, à la Pentecôte, enfin, quand les apôtres reçoivent l'Esprit, ils annoncent l'Évangile, ceux qui écoutent reçoivent l'Esprit. C'est des Juifs et des Hellénistes, on l'a dit. Entre Samaritains et Juifs, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas le grand amour. Je dirais même que c'est plutôt la guéguerre. Et Dieu veille sur l'unité de son Église. Et pour que l'unité soit gardée, on a besoin que l'autorité atteste que les Samaritains, ils sont vraiment croyants. Ils sont comme vous et moi. Et donc, quand Pierre et Jean arrivent là, ils prient pour eux. Si Seigneur, tu peux leur donner l'Esprit, s'ils sont vraiment croyants, bam, l'Esprit tombe sur eux. Ils imposent les mains pour les bénir, pas pour que l'Esprit descende. Justement, on va voir l'amalgame que fait Simon avec ça. Et donc, les apôtres, donc l'autorité des chrétiens, dit « Oui, c'est vrai, ils sont comme nous. Ils ont reçu exactement la même chose. Ils sont frères et sœurs. Dieu veille sur l'unité de son peuple. » On l'a vu, chapitre 6, il commence à y avoir une tension déjà entre les Juifs d'origine grecque et les Juifs d'origine païenne. Les Juifs de Jérusalem et les Juifs d'origine païenne. Il y a déjà une tension qui naît entre un peuple qui partage la même foi, mais qui ne viennent pas des mêmes régions. Donc imaginez un petit peu la tension qu'il aurait pu avoir en voyant que des étrangers, des gens qu'on déteste, se tournent vers Dieu. Dieu veille sur l'unité de son peuple. Et nous devons, à notre tour, veiller sur l'unité. Parce que l'unité, c'est quelque chose de fragile. L'unité, c'est pas quelque chose qui est acquis pour toujours. L'unité, c'est quelque chose qui se travaille. On en prend soin. On accepte que l'autre est tout aussi pécheur que nous. N'ayez jamais une opinion de vous-même trop haute. Pas que, voilà, vous n'avez pas de qualité. Vous avez tous des qualités, des choses que vous faites bien, dans lesquelles vous excellez peut-être, mais vous êtes tous pécheurs. Devant Dieu, c'est tous pareil. Et on est tous au privilège de la même grâce. Et moi, je pêche, vous péchez, et on doit supporter chacun le poids de nos fautes et accepter que l'autre ne soit pas parfait qui est en face de moi, parce que moi-même, je ne suis pas parfait. Et donc, suite à la venue du Saint-Esprit sur les croyants, on revoit Simon le magicien qui est là et qui dit « Oh, trop bien, moi aussi je veux ce pouvoir-là, je veux faire ça. » Et quelque part, vous imaginez, si on pouvait, on arrivait, on touche quelqu'un et bam, le Saint-Esprit vient sur lui. Et il se rend compte à quel point il est pécheur, donc forcément il va se tourner vers Dieu. Ce serait, quelque part, ce serait génial. Mais ça, ce serait de l'obligation. Et on n'est pas un Dieu qui... On sert pas un Dieu qui oblige, on sert un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui demande un engagement total pour nous vis-à-vis de lui, et qui demande une soumission totale à lui. Du coup, on voit que Pierre, quand il parle à Simon, il lui dit « Tu n'as pas de part à l'héritage qui est le nôtre. » Donc, traduit vulgairement, « Tu n'as pas l'Esprit Saint en toi déjà. » Et il appelle à faire quoi ? À se repentir de ses fautes. Il n'y a pas de moment trop tard encore pour aujourd'hui pour se repentir de ses fautes, pour se convertir. Il y a une similitude entre Simon et Philippe. C'est qu'ils font tous les deux des miracles. On l'a dit, un pour son propre plaisir, un pour la gloire de Dieu. Et la différence majeure, c'est que Simon n'est pas prêt à soumettre son cœur à Dieu, alors que Philippe soumet pleinement son cœur à Dieu. On ne sait pas ce qui va advenir de Simon le magicien. Pierre lui donne les clés pour être libéré de son péché. Lui, tout ce qu'il trouve à répondre, c'est « prier pour moi ». Et on connaît souvent des gens qui disent « mais t'as qu'à prier pour moi si tu veux que je me convertisse ». Mais oui, et il faut le faire, et je pense que Pierre et Jean l'ont fait. Et ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête. Pourquoi est-ce que vous suivez Dieu? Pourquoi est-ce que vous suivez Jésus? C'est quoi tes motivations? Est-ce que c'est pour la vie bénie? Et Julie l'a bien dit, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous donner des bénédictions, et je pense que c'est vrai que des fois on n'en parle pas assez. Dieu veut bénir ta vie de choses belles, de choses bonnes, et c'est un fait. Mais est-ce que je le suis que pour ça? Que pour voir des choses extraordinaires se passer? Les miracles, c'est une bonne chose, ils attestent ce que Dieu dit. On est tous conscients, en tout cas on proclame dans notre église que oui, on croit que Dieu peut faire des miracles encore aujourd'hui, guérir des malades. C'est une réalité. Mais la vie chrétienne, c'est aussi difficile. Et je pense, Julie l'a bien dit, les adultes ont souvent tendance à dire « Ouais, la vie c'est dur, tu prends des coups. » C'est vrai. Mais quand tu n'as pas la grâce de Dieu, la vie semble insignifiante, elle semble dure, elle n'a pas de sens. Alors que nous, on sait qu'on va prendre des coups, on sait que ça va être difficile, mais je peux tous les jours venir au pied de la croix, me renouveler, prier, demander Seigneur que mon cœur soit soumis à toi, parce que je sais que quand je me soumets à ce que toi tu veux, les choses vont se passer comme toi tu le veux. Et même s'il y a des embûches, même si c'est difficile, tu les permets et tu me donneras la force de surmonter ce qui sera dur. On a possibilité de vivre avec le Dieu créateur de l'univers. Et c'est vrai que dans notre aujourd'hui, dans la situation actuelle avec la Covid, le monde est vachement anxieux, le monde est vachement oppressant quelque part, hein, de dire mais on peut rien prévoir. Et c'est vrai que voilà, quand vous voulez prévoir des activités d'église, vous dites bon, est-ce qu'on va être confiné, pas confiné? Mais on a confiance, on croit que Dieu va pourvoir. Et s'il en décide autrement, on s'adaptera. Mais il faut faire des projets, il faut faire des plans, il faut croire que ce qui est devant nous, c'est le meilleur. Même si ça nous semble voilé, difficile, le Seigneur est là. Mais est-ce que nos cœurs sont prêts à cela? À traverser des déserts, traverser des tempêtes, traverser des moments où j'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi? Parce que je sers le Dieu vivant et vrai, qui veut me bénir. Philippe, il a tout abandonné, sorti de sa zone de confort, pour prendre son plaisir en Dieu et prendre à cœur la mission que Dieu lui donne, le connaître et le faire connaître aux autres. Il n'a pas regardé à lui-même, il n'a pas regardé aux miracles qui se produisaient lorsqu'il annonçait l'évangile, il a regardé à son maître et à ce désir de lui plaire. Voir des vies transformées par son Seigneur et maître. Et je vous invite qu'on lise le dernier verset, et on va être très court là-dessus. Verset 25. « Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages des Samaritains. » Et le dernier verset de ce matin montre donc Pierre et Jean qui retournent à Jérusalem, donc 100 km de l'autre côté. Mais au lieu de faire un voyage direct, ils s'arrêtent. Leur cœur a été transformé par ce que Philippe faisait. Il dit, mais si les Samaritains peuvent recevoir l'Évangile, qui sommes-nous pour les priver de cette grâce? Ils oublient leur rancœur, ils oublient les ressentiments qu'ils peuvent avoir envers ce peuple, un ressentiment qui dure depuis des années, pour s'arrêter, partager l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Leur esprit est renouvelé par le Seigneur. Leur cœur est renouvelé par le Seigneur. Renouveler dans leur vision. Et le Seigneur peut nous renouveler dans notre vision de peut-être certaines personnes qu'on côtoie, des personnes qui elles sont trop dures pour l'Évangile, elles sont peut-être trop différentes de moi pour l'Évangile. Peut-être, mettez ce que vous voulez derrière. Priez, et je prie pour que le Seigneur me renouvelle dans la vision. Ça fait 10 ans que je travaille dans la même boîte, que je témoigne, que je partage, qu'il n'y a rien qui se passe, que c'est dur. Le Seigneur m'a dit, prie pour ces personnes. Je vais renouveler ta vision d'eux pour que tu sois transformé, pour que tu puisses les voir différemment et que ce zèle-là ne te quitte pas. On a tous des rôles à jouer dans l'Église. On a tous nos rôles à jouer en partageant nos expériences. Si Philippe avait pas partagé, enfin si les apôtres n'avaient pas partagé l'expérience de Philippe qui annonce aux Samaritains l'Évangile et qui se convertissent, Les apôtres, ils ne seraient jamais dit, on va aller en Samarie annoncer l'évangile. Mais parce qu'ils ont vu l'expérience de Philippe, parce qu'elle leur a été transmise, ils se disent, nous aussi, on peut le faire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils le font. L'Église, elle a pour rôle de s'encourager, de se fortifier ensemble, de dire, oh, toi, tu as vécu ça, toi, tu as vécu ce combat-là. Moi, je vis ça, pareil, c'est difficile pour moi aussi de le vivre. Mais dire aussi, moi, j'ai vécu cette victoire-là, et tu peux la vivre sur ton problème-là, ton péché, ta difficulté, tu peux la vivre, tu peux la gagner. Et c'est pour ça qu'on veut vivre des temps ensemble, qu'on veut prier ensemble, qu'on veut... Bon, là, avec la Covid, c'est compliqué de faire des agapes ensemble, de faire des sorties ensemble. Ça va être compliqué de faire le week-end d'église ensemble. Mais on veut se réunir quand on en a l'occasion pour justement échanger, partager, vivre cette victoire qu'on a en Jésus et pouvoir se booster. C'est pas seulement là, la personne qui prêche chaque dimanche qui va vous booster, c'est faire partie d'un groupe de maison. Vous faites pas partie d'un groupe de maison, allez voir Bernard, allez me voir moi, on va trouver une solution. En plus, en ce moment, en Zoom, c'est super facile, il suffit d'un lien, on peut se revoir facilement. Ne nous privons pas de cette communion, de ce partage qu'on a, de pouvoir vivre l'évangile ensemble. Je me suis perdu dans mes notes, c'est pas grave, j'en suis à la conclusion, de toute façon. Ok, qu'est-ce qu'on retient de ça? Je vais vous inviter, les questions vont être affichées là, je vais les lire à haute voix. On va prendre un temps, quelques minutes, parce que les enfants ont déjà fini, je vois que j'ai été trop long, pour méditer ça, là maintenant, méditez-le dans les groupes de maison, qu'on puisse grandir ensemble, qu'on puisse être attentif ensemble. Première question, qu'est-ce qui m'empêche d'être renouvelé par le Seigneur? La peur, l'inquiétude, la soif de contrôle, la paresse, que sais-je? Deuxième question, est-ce que je suis comme Simon, à vouloir le bon côté de la vie de Jésus, sans vouloir voir le spectaculaire, sans la transformation du cœur? Est-ce que je suis prêt à me charger de ma croix et à suivre Jésus? Suis-je prêt à me soumettre à Dieu et à faire ce qu'il veut de moi? Prenons un temps de silence, nous examiner, et ensuite je laisserai la place à Bernard. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de l'exemple de Philippe, de l'exemple de ton Église naissante qu'on retrouve dans le livre des Actes. Seigneur, merci pour leur zèle pour toi, la passion de ton nom, Seigneur, la passion de ce que tu as accompli pour nous à la croix, Seigneur, et leur désir de le transmettre à d'autres, Seigneur. Merci que tu veux nous animer de ce même désir, que tu veux nous aider aussi à veiller sur l'unité de notre Église, notre Dieu. C'est vrai que tu as veillé à ce que ton Église ne se développe pas n'importe comment. Tu as mis des étapes, tu as mis des jalons, Seigneur, pour faire grandir petit à petit ton peuple. Que tu nous aides à veiller les uns sur les autres, à veiller à ce que chacun grandisse, et que personne ne se satisfasse de là où il est, Seigneur, mais que chacun se désire d'aller plus loin. Aide-nous à avancer ensemble, Seigneur, nous te prions ce matin dans le nom de Jésus. Amen.